Voici la traduction d'une conférence sur la guérison divine donnée par Curry Blake, responsable du ministère de John J. Lake aux États-Unis, session 7 sur 19. Bonjour. Alors, avant de poursuivre l'enseignement aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une question que quelqu'un m'a posée hier concernant Smith Wigglesworth, qui est un homme qui a été utilisé puissamment par le Seigneur pour manifester plusieurs guérisons et même résurrections dans les années 1900, dans dernières décennies. Et certaines gens, évidemment, ont critiqué la manière de faire de Smith Wigglesworth qui, parfois, frappait les gens directement pour les amener à la guérison. Et certains ont cru que c'était Dieu qui lui disait à des moments précis quelle personne il devait frapper et quelle personne il ne devait pas frapper, etc. Mais ceci n'est pas exact. Ce que Smith Wigglesworth disait lui-même lorsqu'on lui posait la question et qu'on lui demandait « Pourquoi frappes-tu les gens comme ça? » Parce qu'il y avait, des résultats, il frappait les gens et les gens étaient guéris instantanément. Alors lui affirmait que ce n'est pas les gens qu'il frappait, c'était le diable qui les rendait malades. Et, il disait que les gens étaient, en fait les personnes étaient dans son chemin. Alors il frappait et en réalité il frappait le diable et la guérison survenait instantanément. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que lui-même, lorsqu'il a été malade, il avait l'appendice, il était presque mort. Le médecin avait dit à ses parents qu'il mourrait. Et il y a eu un homme et une femme qui sont venus chez lui et qui sont allés dans sa chambre où il était là, couché. Et ce jeune homme a sauté sur le lit et l'a frappé dans l'estomac. Et il a été guéri instantanément. Alors, plusieurs années plus tard, après cette guérison, lorsqu'il prêchait, et alors là, il a commencé lui-même à frapper les gens. Et les gens guérissaient. Et nous croyons que c'est Dieu qui lui disait. Mais en réalité, Wigglesworth accomplissait ce qui avait fonctionné dans son cas à lui. Il savait que lorsque lui avait été malade, quelqu'un est venu et qu'il l'avait frappé à l'estomac et il a été guéri. Alors, il avait la foi dans cette méthode-là. Alors, lorsque quelqu'un venait à lui malade, il les frappait dans l'estomac et la foi était activée. Et la personne était guérie. Ce n'était pas, voyez, une manière mystérieuse d'agir. Il y a des gens qui aiment mieux imposer les mains. D'autres aiment mieux simplement parler. Certains autres ont plus de miracles lorsqu'ils utilisent des tissus pour la prière. Alors, il y a beaucoup de méthodes pour la guérison. Alors, celle qui fonctionne le mieux est celle en laquelle tu as foi. Et si cela fonctionne pour toi, alors, vous avez la foi dans cette méthode et ça va fonctionner encore la prochaine fois. Pour être honnête avec vous, j'aimerais vous dire que Dieu, en fait, n'est pas très concerné de la manière que nous amenons la guérison. Alors, parfois, et même souvent, alors il va vous laisser choisir de quelle manière agir. Mais parfois, oui, il laisse la personne malade choisir sa manière d'être guérie. Vous voyez la femme qui avait une perte de sang. Elle s'était dit en elle-même, « Oh, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. » Alors, elle est allée dans la foule, elle a touché le vêtement de Jésus, et elle a été guérie. Jésus ne savait même pas qu'il l'avait touchée, ce qui prouve qu'il n'avait rien à faire avec cette guérison. Mais il a ressenti une puissance sortir de lui, parce que la foi de cette femme a attiré la puissance de guérison vers elle. Il y a des témoignages comme ça. Alors, nous devons comprendre que Dieu a différentes façons d'agir. Mais nous ne devons pas nous attacher à une seule manière de guérir les malades. Parce que plusieurs manières vont fonctionner. Ce que Jésus a dit était pour que les croyants imposent les mains aux malades. Alors oui, c'est où nous plaçons l'emphase aussi. Parce que tout le monde peut démarrer de cette manière en imposant les mains. Mais lorsque vous avez démarré la foi pour la guérison, alors, vous allez développer vous-même votre manière de guérir les malades. Et ce sera peut-être différent qu'imposer les mains. Parce qu'aussi, chaque situation est différente. Et la manière que vous allez agir dans telle ou telle circonstance vont être la bonne manière pour que la personne soit guérie. Et alors, vous dites comment je vais savoir quelle manière? Non, vous ne saurez pas quelle manière. Vous allez simplement le faire. Et ce que vous allez faire va fonctionner parce que votre foi est là et la guérison aussi sera là. Dieu va agir selon votre foi. Alors, ne devons pas voir les choses comme mystérieuses parce que les choses sont simples avec Dieu. Alors, ce que nous allons parler ce soir, si vous avez avec vous votre manuel, alors rappelez-vous ceci, l'Église des Corinthiens, lorsque à qui Paul a écrit l'Épître aux Corinthiens, n'était pas une très bonne église. Il y avait beaucoup de problèmes. Les gens étaient vraiment des gens très blessés. Et ils ne faisaient pas les choses à la bonne manière. Et ils ne prenaient pas la Sainte Cène correctement. Il y avait des péchés très graves que même les païens ne faisaient pas. Ce qui est très mauvais lorsque les membres de l'église font des péchés pires que les gens d'extérieur de l'église. Alors nous devons comprendre que ce que nous allons regarder ce soir, sont les choses que Paul a dites à une église qui avait beaucoup de problèmes. Alors, ce n'étaient pas des gens qui jeûnaient ou qui priaient beaucoup, qui ne vivaient pas une vie sainte. Ils n'étaient pas de bons chrétiens. En fait, quelques-uns d'entre eux étaient des chrétiens pires que vous l'êtes vous-même. Vous comprenez? C'était cette église. C'était si mauvais que Paul a dû écrire deux épîtres que nous avons ici dans la Bible pour essayer de corriger les problèmes de cette Église. En fait, il en a écrit trois, mais nous en avons seulement deux. Alors souvenez-vous cela, que Paul a dit, lorsqu'il était question des dons spirituels, et il a dit à l'Église de Corinthe, vous opérez dans les dons plus que n'importe quelle autre Église. Et la chose étrange dans tout ça, c'est qu'il y avait plus de péchés dans cette Église que dans toutes les autres. Cela devrait nous enseigner que Paul, oui, les a appelés des gens charnels, des gens avec une nature charnelle. Il n'a rien dit concernant leur perfection ou leur bonne manière de penser. Non, c'était des gens très charnels. Et c'est ainsi que nous nous voyons souvent aussi. Alors vous dites, pourquoi tu répètes toujours cela, la même chose? Parce que nous avons une habitude de lire la Bible et de croire que toute personne dans la Bible était des gens très spirituels, de grands saints, et qu'ils avaient une auréole autour de la tête, qu'ils ne se choquaient jamais, qu'ils ne faisaient jamais d'erreur, et qu'ils étaient des gens tellement saints. Mais cela est faux. Si cela aurait été le cas, alors ce livre dans la Bible ne pourrait même pas s'appliquer à vous, parce que vous n'êtes pas comme eux. Mais la gloire de Dieu, c'est de nous révéler que ces gens sont comme nous. Et c'est pour cela que Dieu peut nous utiliser aussi, comme il a utilisé ces gens-là. Alors, enfin, c'est une bonne chose et une mauvaise. Oui. Alors, Dieu, oui, peut nous utiliser malgré nos fautes, et nous n'avons pas à être parfaits avant que Dieu agisse à travers nous. Alors, je ne suis pas en train d'excuser le péché. Je suis seulement en train de vous aider à voir la Bible correctement. Alors voilà, allons voir cet épître. Même avec le péché dans l'Église, les dons chez les Corinthiens étaient actifs. Oui, l'épître était là pour les corriger, mais aussi pour les encourager dans les dons. Enfin, c'est la seule épître dans la Bible qui donne une description des dons du Saint-Esprit. Alors Paul avait bien compris, par l'Esprit Saint, que une des manières d'aider cette Église était que d'encourager la manifestation de la puissance de Dieu dans cette Église. Et si la puissance de Dieu agissait correctement, ces chrétiens allaient croître. Il n'a pas dit que les dons étaient faux, il a simplement dit qu'ils devaient être appliqués d'une manière plus exacte. Alors, lorsque ces Corinthiens allaient là ensemble, tout le monde parlait en langue. Alors, c'était un peu désorganisé. Alors, il a établi une règle. Il a dit, oui, vous pouvez parler en langue, dans le sens de donner un message à la congrégation en langue. Alors, vous devriez le faire, mais de faire en sorte que le message soit interprété. Alors, il expliquait seulement comment l'utiliser. Ce qui nous dit que nous avons une responsabilité dans la manière d'opérer les dons du Saint-Esprit. Alors, 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que Paul, a amené ces paroles aux Corinthiens? Au verset 5, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, ces Corinthiens, tout comme nous d'ailleurs, devait saisir cette réalité que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle et que tous nos besoins sont rencontrés et que nous avons tous les dons que nous avons besoin. Nous sommes complets en Christ et nous n'avons rien de besoin que quelque chose nous soit additionné, sinon de donner ce que nous avons. Et à toutes les fois que nous le faisons, Dieu nous remplit davantage et nous additionne même davantage à ce que nous avions déjà. Si vous donnez 50, Dieu vous donne 100. Vous ne pouvez pas donner plus que Dieu donne. Et nous avons entendu ces choses au niveau de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais cela est vrai aussi avec le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Lorsque Jésus a multiplié les pains, il a nourri plus de gens avec moins de nourriture la deuxième fois que la première fois il a fait le miracle. Alors cela démontre que peu importe la quantité de nourriture que Jésus avait, cela n'était pas important. Alors, mais à chaque fois, ils ont donné à Jésus tout ce dont ils avaient. Si vous lui donnez ce que vous avez, Jésus va le multiplier pour rencontrer le besoin. La foi que vous avez ne devrait jamais être un obstacle pour vous. Nous nous demandons toujours si nous avons suffisamment de foi, ce qui est en réalité contraire à la Bible. Jésus n'a pas dit combien de foi tu as, parce qu'à chaque fois qu'il a mentionné cela, il ajoutait que la foi était grande, une foi grosse comme un grain de sénévé, la plus petite des semences, était suffisante pour accomplir un miracle. Vous connaissez cet exemple qu'il a utilisé. Il a dit à ses disciples que si vous avez la foi grosse comme un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, « Bouge-toi! » Mais dans l'Église, nous avons encore changé cette parole. Alors nous disons, « Si j'avais la foi grosse comme une montagne, je pourrais bouger ce petit grain de moutarde. » Vous voyez comment nous sommes? La foi, c'est quelque chose de simple. Et ce n'est pas ça qu'elle soit très grande. Les disciples ont demandé à Jésus, « Augmente en nous la foi. » Et la réponse de Jésus était très simple, parce que la manière dont il l'a dit démontrait qu'il n'était même pas certain que les disciples avaient la foi. Et ils lui ont demandé d'augmenter la foi. Et Jésus a dit, « Si vous aviez la foi, vous diriez à cet arbre, « Déracine-toi, et l'arbre vous obéirait. » Ils ont dit, « Seigneur, augmente notre foi. » Mais Jésus dit, si vous aviez la foi, eux, les disciples, croyaient qu'ils avaient la foi. Et Jésus n'était pas convaincu. Mais tous les gens qui sont allés à Jésus, chaque personne qui est allée à lui, qui démontrait un niveau de foi quelconque, Jésus leur a toujours dit que c'est ta foi, à cause de ta foi, tu es guéri. Jésus a guéri des milliers de gens. Il n'y a aucun cas dans la Bible, mentionné dans la Bible, d'une personne qui n'a pas été guérie, ou à qui Jésus a dit « Tu n'as pas assez de foi pour que je te guérisse. » Ce n'est pas étrange, là? Personne, pas un seul cas, parmi tous les milliers que Jésus a guéris, tous ces gens qui ont été guéris avaient suffisamment de foi. Vous comprenez que comment grand est ce miracle? Aujourd'hui, dans l'Église, nous questionnons beaucoup sur la foi. Et il est même difficile de trouver 10 personnes qui réellement agissent et voient des miracles par la foi. C'est très rare. Alors, il est évident que notre doctrine est incorrecte. Parce que tout ce qui fait en sorte que vous n'ayez pas les mêmes résultats que Jésus nous a promis est évidemment quelque chose d'incorrect avec nous, non pas quelque chose d'incorrect avec Dieu. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qui est incorrect avec nous sont les traditions que nous avons bâties, nos fausses compréhensions de ce que Dieu a dit. Nous avons construit notre foi sur des faux dieux, plutôt que de connaître ce que le vrai Dieu a à dire. Et nous croyons que nous n'avons pas suffisamment de foi pour recevoir ce que nous avons besoin, quand en réalité, la vraie foi consiste simplement à la connaissance de Dieu, de connaître Dieu. Voilà la foi. Sommes-nous prêts à accepter le fait que Dieu est fidèle à sa parole? Et sommes-nous prêts à agir en conséquence? Et s'il y a quelque chose autour de vous qui dit le contraire de la Bible, vous aurez à confronter ces fausses pensées et choisir ce que la Bible dit. Et même parfois, vous serez confronté avec des situations où, à vos yeux, tout est perdu. La situation vous semble impossible, sans issue. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Qu'allez-vous dire à ce moment-là? Qu'allez-vous penser? Est-ce que vous aurez le réflexe? Est-ce que vous allez choisir de croire ce que la Bible dit? Si je mets ma main sur le malade sera guéri. Ou encore dans d'autres cas, les finances ne vont pas très bien chez vous. Vous croyez que vous allez perdre votre maison. Vous n'êtes plus capable de payer vos rentes mensuelles. Alors là, vous commencez à avoir crainte. Vous avez peur et vous n'avez plus de foi. Mais les gens de foi vont dire oui, c'est ainsi que je vois la chose, c'est ainsi que je me sens. Mais voici ce que dit la Bible. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, non pas selon mes propres richesses, mais selon ses richesses en Jésus-Christ. Et Dieu va agir. Nous devons comprendre que si nous nous croyons chrétiens, il doit y avoir quelque chose en nous qui est différent des gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas Dieu. Si nous avons les mêmes peurs que ces gens-là, et si nous avons les mêmes inquiétudes que ces gens-là, alors qu'est-ce qui fait la différence entre nous et eux? Nous devons connaître Dieu. Et oui, ce n'est pas toujours facile de vivre cette vie et de dire voici ce que Dieu a dit. Parce que nous avons ces mêmes pressions sur nous que les autres ont. Mais la différence, c'est que je connais Dieu. Dieu ne va pas m'abandonner. Et si vous êtes fidèle envers lui, alors vos besoins seront comblés. Que ce soit l'argent ou pour un besoin de guérison, peu importe le besoin. Mais vous vous dites, non, non, tu ne comprends pas mon problème. J'ai mal agi, j'ai trahi Dieu. Ah oui, nous avons tous trahi Dieu à un moment ou à un autre. Nous sommes tous pécheurs, la Bible dit. Mais la clé est celle-ci. C'est que actuellement, vous ne vivez pas dans vos fautes du passé. Vous avez été régénéré et pardonné et vous avez choisi d'aligner votre pensée, votre vie avec ce que la Bible affirme. Si vous croyez dans la guérison, vous allez prier pour les malades. Même si les résultats ne sont pas là, vous allez continuer parce que vous y croyez. Si vous croyez que Dieu peut répondre à vos besoins financiers, je peux le voir si vous y croyez ou non. Parce que lorsque tout ira de travers, allez-vous continuer à donner et à être généreux envers l'Église et autres? Si vous croyez que Dieu va vous bénir, alors peu importe ce qui se passe actuellement, cela n'affectera pas votre générosité parce que vous savez que Dieu est votre pourvoyeur. Mais si vous ne croyez pas cela, alors vous allez arrêter de donner. Et cela démontre votre foi. Parce que j'ai une grande théologie à vous enseigner. Ce que vous faites, c'est ce que vous croyez. Ce que vous ne faites pas, c'est ce que vous ne croyez pas. N'est-ce pas profond comme théologie? C'est tellement simple, n'est-ce pas? J'en ai un autre de ces théologies. Les gens disent, vous croyez à la guérison? Je leur dis, alors as-tu prié pour les malades? Ils disent non, mais notre Église le fait. Et si notre Église le fait, et si je suis membre de cette Église, alors c'est comme si moi-même je le faisais. Alors voici la théologie profonde reliée à ce problème. Si vous ne le faites pas, alors vous ne l'accomplissez pas. Est-ce que c'est profond? Alors au verset 14, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? On doit se souvenir encore ici que la première partie de ces versets concerne une mentalité de l'Ancien Testament. Alors, ce que nous devons réaliser, c'est qu'encore une fois, lorsque Paul nous amène à l'Ancien Testament, alors c'est ça, en quelque sorte, c'est sa manière de dire, cela était une vérité ancienne, mais ce n'est plus applicable aujourd'hui. Maintenant, voici ce que nous amène la Nouvelle Alliance. Regardez ce qu'il dit. Car qui a connu la pensée du Seigneur, au verset 16, pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Et vous dites, non, je n'ai pas la pensée de Christ. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez la pensée de Christ. Le problème souvent, c'est que vous croyez que si vous avez la pensée de Christ, c'est là dans notre tête. Ça, c'est votre pensée. Sa pensée est ici, dans le cœur, dans votre esprit. Et cet esprit est complet en vous. Son esprit et sa pensée est en vous. Et c'est ce que je vous ai dit il y a quelque temps, que notre but, notre objectif, n'est pas de prendre une connaissance de la tête et la descendre vers le cœur. Notre travail est de prendre la connaissance du cœur et l'amener vers votre pensée. Lorsque Dieu nous a donné son esprit, nous avons eu la pensée de Christ. Et nous devons la faire passer du cœur vers notre pensée, notre intelligence. Et nous devons être renouvelés avec la parole de Dieu qui est déjà en nous. Et cela révèle qui nous sommes et tout ce que Dieu nous a donné. Si on prenait un langage informatique, nous pourrions dire que Dieu nous a téléchargé tout ce qui était nécessaire. Mais il est quelque peu verrouillé. Et nous devons déverrouiller ces fichiers pour qu'ils soient utilisés. Et pour que ce soit applicable, nous devons amener cette information dans notre pensée. Si notre pensée est renouvelée, et lorsque notre esprit et notre pensée sont en parfaite harmonie, alors la puissance de Dieu à travers nous va agir par son esprit, à travers notre pensée et en dehors de nous, vers les gens. C'est ainsi que la puissance de Dieu fonctionne. Mais le problème avec cela, c'est que vous dites, j'attends que la puissance de Dieu tombe sur moi. Lorsque je prie pour quelqu'un, je veux que la puissance de Dieu tombe sur eux. Mais je crois qu'il faut revenir à la case de départ encore. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Ce n'est pas vous qui faites les règles. Vous apprenez les règles. Vous appliquez les règles. Et vous vous enlignez avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va pas s'enligner avec vous. C'est ce que je vous ai dit, selon la Bible. Vous devez appliquer votre pensée à ce qui est écrit dans la Bible. La religion, la théologie, essaie d'amener la Bible à notre pensée, à s'aligner à notre pensée. Mais le christianisme, le vrai christianisme, c'est d'appliquer la Bible et de faire en sorte que notre pensée s'aligne avec la Bible. La religion aime à faire ses propres règles. Le christianisme est de servir Dieu et les hommes. C'est la différence. Les gens religieux cherchent toujours une règle que vous allez violer. Le christianisme veut couvrir vos fautes et ne pas vous humilier. Oui, le vrai chrétien va vous être honnête, va être franc avec vous. Mais la religion veut vous humilier publiquement, confesser vos péchés à d'autres. Ça, c'est la différence. L'amour couvre une multitude de fautes. Et ça, c'est le cœur de Dieu, le cœur du christianisme. Vous comprenez cela? C'est simple. C'est simple à faire. Ce que vous avez à faire, c'est d'aimer les gens. Tout ce que je fais ici, c'est vous démontrer une différente manière d'aimer les gens par la guérison. Alors, vous pouvez les aimer en les guérissant. et non juste en offrant un bol de soupe. Et là, vous pouvez amener la puissance de Dieu dans leur situation. Alors revenons quelques instants à cette notion que lorsque nous prions pour un malade, nous devons nous attendre à ce que la puissance de Dieu tombe du ciel sur ces personnes-là. Mais ce n'est pas exactement ce que la Bible dit. Jésus a dit que des fleuves d'eau vive jailliraient de notre sein. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Et il se référait là au Saint-Esprit. Alors il a comparé le Saint-Esprit à un fleuve d'eau vive qui allait jaillir de nous. L'Esprit du Dieu vivant va être comme une fontaine en nous et qui va devenir une source d'eau vive pour les autres. Dans les premiers jours de l'Église, alors on parlait de l'Esprit Saint qui allait venir. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, après que Jésus a quitté, il a envoyé l'Esprit Saint et il est dit qu'il a répandu au passé, il a répandu l'Esprit Saint sur toute chair. Et maintenant l'Esprit est ici. Et lorsque vous l'invitez, il vient en vous et à partir de ce moment, il demeure en vous. Et c'est pourquoi les paroles que vous prononcez doivent être les paroles de Jésus. Mais cela ne se produira pas tant et aussi longtemps que votre pensée n'est pas renouvelée. Alors j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que je viens de vous dire. C'est une clé importante pour voir la guérison de Dieu se manifester. Alors nous allons prendre encore une pause ici.